Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Deux nappes de pétrole se rapprochent désormais des côtes françaises. La pollution pourrait toucher la Charente-Maritime ou la Gironde à partir de dimanche ou lundi. Sur place, on se prépare. La plainte déposée par 4 ONG contre l'inaction climatique de l'État. Faut arrêter ces bêtises, répond Emmanuel Macron. C'est pas le peuple contre le gouvernement, la solution est en nous tous. Après 9 jours de mobilisation, les syndicats pénitentiaires reçus par la ministre de la Justice, ils saluent des avancées sur la sécurité, mais souhaitent davantage de garanties. Les députés britanniques disent non à un second vote sur le Brexit, mais oui à un report de la date butoir, à condition de voter l'accord qu'ils ont déjà retoqué à 2 reprises. Et comme si ça n'était pas assez compliqué comme ça, Donald Trump vient mettre son grain de sel. Le foot, bien sûr, et le Stade Rennais en difficulté dans son 8e de finale retour de Ligue Europa face à Arsenal, Cyril de la Morinerie.
Oui, puisqu'ils sont menés 2-0 et virtuellement éliminé de cette Ligue Europa avec 2 buts inscrits par Arsenal, par Aubameyang et par Maitland Niles.
Cyril de la Morinerie que l'on retrouvera évidemment plus longuement dans le courant de ce journal pour ce match en direct d'Arsenal. C'est une grande première dans le monde de la musique, le numérique qui dépasse les ventes physiques de CD ou de vinyle. Le streaming a de plus en plus la cote. Côté météo, on va terminer cette semaine sous les nuages, sous la pluie et sous la neige. En montagne, l'Isère et les Deux-Savoie restent en alerte orange pour risque d'avalanche. Quelques éclaircies quand même demain après-midi sur la façade atlantique ainsi qu'entre les Pyrénées et la Méditerranée. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'Interview Echo. Et ce soir, c'est Jean-Rémy Baudeau qui est à Nairobi au Kenya et qui reçoit le président directeur général du groupe Danone Nairobi où se tient le One Planet Summit, sommet voulu et créé par Emmanuel Macron pour faire travailler ensemble politique, entreprise, finance et ONG pour lutter contre le réchauffement climatique.
Europe 1.
Et c'est donc l'inquiétude. Les côtes atlantiques menacées d'une nouvelle pollution après le naufrage du navire italien Grande America dans le golfe de Gascogne. Le bateau a sombré après un incendie à bord avec dans ses soutes 2000 tonnes de fioul lourd. Le ministre de la Transition écologique François de Rugy s'est rendu à Brest aujourd'hui. L'État, dit-il, fait tout pour réduire l'impact de cette pollution. Plusieurs bateaux sont mobilisés, un sous-marin également qui va aller inspecter le navire qui a coulé à pic. Écoutez les précisions aujourd'hui du porte-parole de la préfecture de l'Atlantique.
Les observations réalisées ce matin laissent apparaître la présence, cette fois-ci, de 2 nappes distinctes. Ces 2 nappes sont environ distantes d'une 20aine de kilomètres. Le dispositif de lutte anti-pollution est déjà sur la zone d'opération. Il continue à monter en puissance. Malheureusement, nous avons actuellement contre nous des conditions météorologiques très dégradées. Et ces conditions météorologiques très dégradées limitent nos capacités d'intervention. Des fenêtres météorologiques vont progressivement s'ouvrir. Bien entendu, nous sommes prêts à les exploiter.
Le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique, Riaz Akoun. Cette pollution, les régions potentiellement concernées, évidemment, la redoutent beaucoup et commencent même à s'y préparer. C'est ce que vous avez pu constater cet après-midi en Charente-Maritime. François Coulon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.
Alors, côté pêcheurs, d'abord au port de la Cotinière sur l'île d'Oléron, l'inquiétude est modérée tout simplement parce que les poissons évoluent au fond de la mer alors que le fioul reste en surface. Ce sont essentiellement les producteurs d'huîtres et de moules qui redoutent le pire. Ceux que j'ai rencontrés à Foura et à Charon me disent qu'ils se sentent complètement impuissants et ce à la veille de la saison estivale, c'est-à-dire au plus mauvais moment. Une arrivée de mazout ici sur les côtes charentaises, ça ruinerait une année de boulot, me confiait tout à l'heure un mytiliculteur. Sur l'île de Ré où je me trouve, on se prépare à une opération étanchéification. Lionel Quillet, président de la communauté de communes.
On a 300 ouvertures à la mer par les maraissonniers, les ostréiculteurs. Et depuis Cynthia, on a mis un système qui nous permet en 6 à 8 heures de fermer toute l'île de Ré pour que ça ne rentre pas à l'intérieur. Je suis inquiet parce que je sais très bien les désordres que ça peut amener sur un territoire en matière environnementale, d'activité économique et puis aussi en matière touristique. En veille de saison, une nappe qui arrive comme ça sur un territoire, on prend par exemple les ostréiculteurs, pour eux ce serait une catastrophe. Si ça s'étale, c'est déjà très très douloureux. Si ça se concentre sur un estuaire ou sur un coin, ça peut être catastrophique.
Voilà, un dernier mot pour vous dire que tous les professionnels de la mer que j'ai rencontrés sont prêts à mettre leur bateau à contribution pour lutter contre les hydrocarbures.
François Coulon en Charente-Maritime pour Europe 1. La question climatique plus que jamais à la une. Avant la grande mobilisation de demain dans les écoles et avant les marches prévues dans toute la France samedi, les 4 ONG auteurs de la pétition L'Affaire du siècle qui a rassemblé plus de 2 millions de signatures ont mis leurs menaces à exécution. Elles ont déposé un recours en justice contre l'État pour inaction climatique. Parmi ces associations, Oxfam, dont la présidente en France est Cécile Duflo.
Il y a matière à ce que l'État soit condamné pour carence fautive, c'est le sens de ce recours. Mais l'État peut aussi être condamné à indemniser, nous demandons l'indemnisation du préjudice moral, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il soit condamné à agir, que cette décision de justice l'oblige à mettre en place les politiques qu'il s'est même lui-même engagé à prendre. Ce qui est en jeu, c'est la vie de l'humanité sur Terre. Et c'est d'ailleurs une partie de ce recours. Nous allons faire essayer d'émerger un principe général du droit, qui est le droit de vivre dans un climat préservé.
La directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflo, au micro européen de Bastien Munch. Et la réponse d'Emmanuel Macron, qui se pose justement en ce moment en champion de l'environnement à Nairobi au sommet pour la planète. Le président a visiblement peu apprécié ce télescopage, d'où sa réaction.
Je leur ai dit, moi j'ai reçu ceux qui ont lancé ça. J'en vois pas les tenants et les aboutissants. J'achète pas cet esprit, si je puis dire. La solution, elle est en nous tous. C'est pas le peuple contre le gouvernement sur ces sujets-là. Faut arrêter ces bêtises. C'est nous tous. Les gouvernements doivent bouger, les grandes entreprises doivent bouger, les investisseurs doivent bouger, les citoyens doivent bouger. Les postures, elles ne m'intéressent pas. Je ne fais partie ni des gens qui pensent qu'il faut continuer, ni des gens qui pensent que le gouvernement a toujours tort par définition ou qu'on est déjà fichu et que la planète va brûler. Ça fait 20 ans qu'on l'a dit, ça. C'est fini, cette affaire. Maintenant, il faut agir. On est dans l'action concrète, positive, forte. Changer les habitudes. Il faut que les gens regardent devant.
Emmanuel Macron avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Nairobi, Jean-Rémy Baudeau, que l'on retrouvera tout à l'heure avec son invité, le président directeur général du groupe Danone, qui participe à ce sommet. La journée de demain est donc placée sous le signe du climat et de l'environnement chez les jeunes, avec l'organisation de débats et un appel à manifester. Notez que Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, sera l'invité du Tour de la question avec Wendy Bouchard à partir de 9h sur Europe 1 pour commenter cette mobilisation inédite. Et puis le grand débat national, lui, s'achève demain. Et à cette occasion, autre invité spécial sur Europe 1, le Premier ministre Édouard Philippe, qui répondra aux questions de Nikos Aliagas et d'Audrey Crespo-Mara. Ce sera entre 7h30 et 9h. Il répondra également à vos questions, auditeurs d'Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07 et alors que les blocages des prisons se poursuivent en France, les syndicats pénitentiaires ont été reçus aujourd'hui par la ministre de la Justice, Force ouvrière, puis l'UFAP, toujours des désaccords, notamment sur la rémunération des surveillants. Mais tout de même, quelques avancées, en particulier sur ce qui concerne l'équipement et la sécurité. Jean-François Forger, le secrétaire général de l'UFAP, en tout cas est satisfait de l'expérimentation des palpations systématiques, mais il demande au ministère d'aller encore plus loin.
Ça signifie plus de tension, plus de moyens, plus de travail. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que ça ne soit pas une mesure annoncée, que ça soit pensé, réfléchi, organisé, tout en se mettant dans la peau du surveillant qui va devoir appliquer cette mesure, qu'il soit accompagné et soutenu au plus haut sommet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un usage d'une fouille, que ça soit sur une personne extérieure ou sur un détenu, qu'on ne soit jamais dévoué ou désavoué par l'autorité supérieure. Parce que c'est trop souvent le cas aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'UFAP pénitentiaire, il était au micro Europe 1 de Chanel Petit. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Le Brexit, Donald Trump affirme qu'il avait la solution, mais que Theresa May ne l'a pas écouté. À tout de suite.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre grand journal de la nuit. Il est 22h09, 3 votes en 3 jours au Parlement britannique. Et il faut bien le dire, ça devient de plus en plus compliqué d'y voir clair. Ce qui est sûr, c'est que les députés ont voté ce soir massivement contre un second référendum. Quant à un report du Brexit au-delà de la date prévue du 29 mars, ils y sont favorables jusqu'au 30 juin. Sauf que pour que ce report soit possible, eh bien, il faut qu'ils revotent sur l'accord de retrait qu'ils ont déjà retoqué à 2 reprises. Bref, on n'en a pas fini avec ce dossier. Et comme si ça n'était pas assez confus comme ça, voilà que Donald Trump s'en mêle.
Je suis surpris de voir à quel point tout se passe mal. J'ai donné des conseils à la Première ministre sur la manière de négocier et je pense que ça aurait marché, mais elle ne m'a pas écouté. Ça ne me dérange pas, elle fait ce qu'elle a à faire. Franchement, je pense que cela aurait pu être négocié d'une autre manière. Je déteste voir tout le monde se déchirer. Je ne pense pas qu'un autre vote serait possible parce que ce serait très injuste pour ceux qui ont gagné. C'est une situation difficile et franchement, c'est une honte.
Donald Trump, cet après-midi, qui s'invite donc dans ce débat sur le Brexit, le président américain qui est furieux ce soir pour une autre raison. Le Congrès américain s'oppose en effet au financement d'urgence de son mur à la frontière avec le Mexique. C'est un camouflé, ce à quoi Donald Trump a répliqué sur Twitter par un simple mot, veto. Il avait prévenu qu'il dégainerait le premier veto de sa présidence au cas où une majorité de sénateurs approuvait la résolution contestant cette initiative. Boeing annonce à l'instant la suspension des livraisons de ces avions moyen courrier 737 MAX qui ont été interdits provisoirement de vol, vous le savez, dans le monde après les deux accidents récents d'appareils de ce type. Il suspend donc la livraison, mais il poursuit en revanche leur production. Deux roquettes ont été tirées ce soir depuis la bande de Gaza vers la région de Tel Aviv. C'est ce qu'indique l'armée israélienne. Pas de blessés, pas de dégâts et pas davantage de précisions. Les deux mises en examen de Tariq Ramadan pour viol maintenues par la justice. Décision de la Cour d'appel de Paris qui rejette donc sa demande de placement sous statut de témoin assisté. Le cardinal Barbarin a rendez-vous lundi au Vatican pour une audience privée avec le pape François. L'archevêque de Lyon condamné pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Il avait annoncé la semaine dernière son intention de présenter sa démission que le pape est libre ou non d'accepter. Attention, si vous êtes lycéen ou parent de lycéens de terminale, dernier délai ce soir à minuit pour s'inscrire sur Parcoursup.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et tous les espoirs européens reposent sur leurs épaules. Les footballeurs rennais qui jouent en ce moment leur 8e de finale. Retour de Ligue Europa chez les Anglais d'Arsenal. Cyril de la Morinerie, on vous retrouve en direct. C'est mal parti. Hein. La première mi-temps a été très compliquée.
Oui, première mi-temps, vous avez raison Isabelle, très compliqué puisqu'ils sont menés 2-0. Nous sommes désormais dans la deuxième mi-temps et c'est vrai que l'entame de ce match a été très difficile pour les Rennais avec un premier but encaissé dès la quatrième minute, ce qui nous rappelle d'ailleurs un peu le match aller avec un service de Ramsey pour Aubameyang qui au premier poteau eh bien, ouvre le score pour Arsenal. Et puis le deuxième but intervenu à la 16e minute, cette fois-ci c'est un centre d'Aubameyang, vous voyez il a marqué et il est passeur sur une tête de Maitland Niles qui marque donc le deuxième but pour Arsenal. Et la réaction, eh bien, elle est intervenue pour les Rennais en seconde période, en début de seconde mi-temps, avec une perte de balle d'Arsenal. Grenier qui récupère, il trouve Sarr juste à l'entrée de la surface de réparation, la frappe, le poteau pour Sarr et de très peu donc Rennes qui a failli marquer ce but qui aurait permis aux Rennais de revenir dans la course pour la qualification. Rien n'est perdu, 2-0, il reste 37 minutes à jouer ici à Londres. Arsenal avec des supporters bretons absolument exceptionnels, 6000 supporters ce soir qui encouragent les Rouges et Noirs.
On y croit. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie et on vous retrouvera même avant 22h30 pour faire un nouveau point sur cette deuxième mi-temps. Le foot, c'est aussi Didier Deschamps qui a dévoilé aujourd'hui sa liste des Bleus qui seront appelés à débuter la campagne de qualification pour l'Euro 2020 contre la Moldavie et contre l'Islande la semaine prochaine, les 22 et 25 mars, avec quelques nouveautés, le retour de Levin Kurzawa et celui de Kingsley Coman. Et puis c'est une grande première dans le monde de la musique, le numérique qui dépasse les ventes physiques de CD ou de vinyle. Le streaming a de plus en plus la cote et parmi tous les artistes, c'est Johnny qui reste en tête des ventes en 2018. Diane Chenouda.
Pardonne-moi si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas.
Oui, Johnny en tête avec son album posthume. 1 500 000 ventes pour Mon pays, c'est l'amour. Vente physique pour l'essentiel, CD et vinyle, pour ce disque qui est arrivé dans le top 5 des plus grosses ventes d'albums dans le monde. Mais Johnny ne suffit pas à enrayer le recul de 15% des ventes de CD en France. Pour la première fois, le streaming représente plus de la moitié des ventes de musique, avec une progression de 26% l'an dernier. Bilan dressé par le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. On écoute Olivier Nus, son président.
On a atteint à fin 2018 5,5 millions d'abonnés à des plateformes de streaming audio payantes, ce qui est plutôt très encourageant. On pourrait atteindre le double, si ce n'est pas le triple, d'ici quelques années. Même si aujourd'hui, grâce au développement de la consommation streaming et des revenus que ça génère, le marché repart à la hausse, ça fait 3 ans qu'il repart doucement à la hausse, qui compense les baisses de physique, on est aujourd'hui sur le marché français qu'à 40% de ce qu'était le marché de la musique en France en 2001-2002.
Ceux qui consomment le plus de streaming, en tout cas, sont les moins de 25 ans, les jeunes qui dopent les ventes de pop et surtout de rap. Dans le top 20, après Johnny, arrive Maître Gims, un peu plus loin Orelsan, Eddie De Preto, Mylène Farmer et Angèle, qui cartonne avec son premier album, comme c'est le cas du quart des artistes de ce top 20.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier pour y croire.
Angèle, qui participe donc au succès du streaming, c'est ce que nous dit Diane Chenouda. On ne sait pas s'ils ont emporté de la musique à bord. En tout cas, deux astronautes de la NASA et un cosmonaute russe ont décollé ce soir pour la Station Spatiale Internationale. Deux d'entre eux avaient survécu en octobre au lancement raté d'une fusée Soyouz. Allez, on va jeter un œil sur la météo avec vous, Elena Morna. Alors Elena, l'amélioration n'est pas vraiment là, mais elle n'est pas loin.
Exactement Isabelle, on va avoir un semblant d'amélioration pour samedi avec une belle journée, puis de nouveau pluvieux pour dimanche, mais la semaine prochaine s'annonce plus calme et lumineuse. En attendant, demain c'est encore de la pluie et c'est une bonne nouvelle, comme le dit le poète américain Richard Brautigan. Quand il pleut quelque part, ça programme des fleurs et ça rend les escargots heureux. Alors la pluie restera soutenue demain matin sur le nord-est. Et encore de bonnes chutes de neige, attention sur les Alpes du Nord, avec toujours trois départements en vigilance orange pour avalanche, l'Isère et les Deux-Savoies, où il sera quand même tombé près de 70-80 cm de neige en 48 heures. Neige et pluie qui faibliront l'après-midi, pareil d'ailleurs sur les trois quarts ouest. Les pluies vont se raréfier, ce sera sec et quelques éclaircies d'ailleurs sur la façade atlantique l'après-midi. Éclaircies plus franches entre les Pyrénées et la Méditerranée, toujours de bonnes rafales de vent hein, au nord de la Loire ainsi qu'en Provence avec du Mistral et de la Tramontane à 80 km/h. L'amélioration qui se dessine sur l'ouest se confirmera donc samedi. Quant aux températures, elles remontent. 10 degrés demain après-midi à Langres, 12 à Nancy et Besançon, 13 à Caen comme à La Rochelle et Auxerre, 15 à Rennes, Paris, Bordeaux et Bourges, 16 à Toulouse, 18 à Lyon et Ajaccio, 20 degrés à Marseille et 22 la maximale. C'est agréable pour Nîmes.
Si les escargots sont heureux, nous aussi. La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité Echo. Ce soir avec Jean-Rémy Baudot depuis Nairobi. Jean-Rémy qui reçoit le directeur général de Danone, Emmanuel Faber. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et les marchés qui sont restés très hésitants ce soir à Wall Street.
Oui, des marchés très prudents et donc des indices qui ont très peu évolué. Le Dow Jones avance de 0,03%, 25 710 points. Le Nasdaq perd 0,16% à 7 631 points. Les investisseurs ont bien sûr continué de suivre le feuilleton du Brexit, mais c'est surtout le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine qui attise encore une fois les craintes. La rencontre entre Donald Trump et le président chinois n'aura pas lieu en mars comme prévu. Washington l'a confirmé ce soir et ça douche bien sûr les espoirs d'une résolution rapide. Du côté des valeurs, Boeing a repris sa chute, moins 1% ce soir et plus de 10% perdus depuis lundi à cause de ces avions B737 Max. Ils ont été interdits de vol dans la plupart des pays du monde, dont les États-Unis.
Voilà, et Boeing qui annonce ce soir la suspension des livraisons de ces avions moyen courrier, justement les 737 Max.
Lourd repli aussi pour Facebook, moins 1,8%, conséquence de la panne géante qui a frappé pendant 24 heures les réseaux sociaux du groupe comme Instagram et WhatsApp. Sur le marché des changes, l'euro 7,02%, on est à 1,13$ et la livre sterling chute de 0,9%, 1,3220$ après le vote ce soir d'un report du Brexit. La situation reste donc très compliquée pour le Royaume-Uni.
En effet, le marché parisien, lui, poursuit son ascension.
quatrième séance de progression pour le marché parisien. Le CAC 40 gagne 0,82%, 5349 points. Ça monte pour Iliad, plus 3,3%. La maison mère de Free a séduit 100 000 abonnés en moins de deux mois avec sa nouvelle box, la Freebox Delta. Très belle séance aussi pour Lagardère qui grimpe de 8%. Le groupe qui est propriétaire d'Europe 1 a séduit avec ses résultats annuels.
Et c'est du vert aussi pour Pernod Ricard. Et je ne ferai pas de mauvais jeu de mots avec le jaune. Hein.
Le groupe de spiritueux envisagerait une cession de sa branche vin, une branche qui comprend notamment des marques australiennes et espagnoles. Pernod Ricard s'adjuge 1,4%, plus 0,3% pour Bolloré qui a publié ses résultats financiers après la clôture à Paris et qui a annoncé que Vincent Bolloré, le PDG et principal actionnaire du groupe, eh bien il va laisser les rênes de l'empire familial à Cyril, l'un de ses quatre enfants. Et puis en baisse, on trouve Casino, moins 3% après les résultats annuels. La dette du distributeur inquiète toujours les investisseurs. Ailleurs, en Europe, c'est du vert sur tous les marchés. Londres gagne 0,4%, Francfort plus 0,1%, Madrid plus 0,2%, Milan plus 0,6%, Amsterdam plus 0,9% et le CAC 40 gagne encore 0,8%, 5349 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon détaillé. Claire Lemaître de Boursier.com. Et à 22h20, il est temps de retrouver l'invité éco. Ce soir, c'est avec vous, Jean-Rémy Baudot. Vous êtes à Nairobi et vous recevez le directeur général de Danone.
Emmanuel Faber, bonsoir. Vous êtes président directeur général du groupe Danone. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Nous enregistrons ce jeudi matin cette interview ensemble ici au Kenya, à Nairobi, au siège de l'ONU Environnement, où se tient le One Planet Summit. C'est ce sommet créé par le président Macron pour faire travailler ensemble politique, entreprises, finances et ONG pour lutter contre le réchauffement climatique. Emmanuel Faber, à quoi ça sert ce type de rendez-vous? Est-ce que c'est vraiment utile?
Je pense que ce sont des événements qui sont nécessaires compte tenu de la dégradation du consensus politique mondial sur l'urgence de travailler sur les sujets d'environnement, le climat bien entendu, les océans, mais aussi la biodiversité qui est un vrai risque sur la sécurité alimentaire mondiale. Donc je pense que des événements comme celui-ci sont nécessaires et bien entendu ils ne sont pas suffisants parce que One Planet, la réalité c'est que One Planet et One People, c'est par la façon dont chacun d'entre nous, y compris ici en Afrique, les fermiers à l'échelle de chacune des fermes, les citoyens prendront en charge l'agenda qui peut être défini, qui peut être cadré par des réunions comme celui-ci, comme celle-ci.
Emmanuel Faber, vous en avez parlé sur scène, mais quelles sont les actions concrètes de Danone pour aider les agriculteurs en Afrique?
Bah oui, nous on investit beaucoup dans notre amont agricole parce qu'on pense que c'est ce qui crée la résilience des modèles agricoles et qu'on va en avoir besoin. Et donc ici par exemple au Kenya, on travaille avec 30 000 fermiers à modifier leurs pratiques d'élevage, ce qui va leur permettre d'augmenter la productivité de leur production laitière, mais aussi de diversifier cette production en passant à de l'agroécologie, en replantant des arbres, du coup à l'ombre des arbres d'être capable d'avoir des fruits, des légumes. Et au total, sur une région qui est très pauvre, qui couvre à peu près 100 000 fermiers, on parle de créer une économie additionnelle d'environ 200 millions de dollars de revenus pour sur 10 ans, hein, sur cette zone. Pour ça, on utilise la finance carbone, c'est-à-dire qu'on accrédite le fait qu'on va, avec ça, capturer 1 million de tonnes de carbone, mais surtout aussi sauver de l'eau. Et en fait lutter contre l'érosion des sols. Donc c'est un exemple, on en a un grand nombre dans les pays africains dans lesquels on intervient, et on intervient toujours avec des ONG et en collaboration totale avec les communautés locales, parce que de nouveau, il faut reconnaître que c'est elles qui ont le leadership de la survie, du développement de l'écosystème dans lequel elles vivent.
Revenons en France, vous le savez, une pétition a été lancée, l'affaire du siècle. Une action en justice a été déposée aujourd'hui pour pousser l'État à en faire plus sur l'environnement. Emmanuel Faber, quel regard vous portez sur ce type d'initiative?
Pour moi, il témoigne du fait que la génération qui arrive exige que ceux qui sont aux commandes, d'une certaine façon, orientent les choses, créent les conditions pour que les choses changent. C'est pour moi, c'est ça le principal message.
Face à ces défis, qu'est-ce que Danone fait pour réduire son impact sur l'environnement, notamment en France ?
On travaille depuis très longtemps avec nos éleveurs, 2000 éleveurs. On achète directement notre lait, donc on les connaît tous, sur la résilience de leur élevage. On a converti et financé directement la conversion d'un grand nombre des exploitations en bio qui travaillent pour nos marques bio en France, les deux vaches, mais maintenant Danone, Activia et d'autres marques également. On a dit qu'on s'engageait à ce que la totalité de notre agriculture en France soit régénératrice d'ici 2025, c'est-à-dire non seulement protège mais également régénère la santé des sols, et le bio en fait partie. Et on a dit aussi qu'on allait, par exemple dans l'alimentation infantile avec Blédina, aujourd'hui en bio on arrive à ne trouver en France que 50% de nos besoins, on veut passer à 80% dès l'année prochaine, et bien entendu ça veut dire dans les toutes prochaines années 100% ou quasiment, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne poussent pas en France et dont on a besoin pour des ingrédients. Voilà. Mais tout ça, c'est ce que des marques engagées font. On a, comme vous le savez, en septembre dernier, organisé une grande journée où on a donné la totalité du chiffre d'affaires de la totalité de nos marques en France à un fonds qui est dédié. J'ai annoncé au Salon de l'agriculture il y a 10 jours que trois projets très concrets allaient bénéficier de cet appui qui représente quand même 5 millions d'euros.
Est-ce qu'on peut imaginer que 100% des yaourts Danone seront bio demain ? Est-ce possible ?
Oui, c'est possible et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. C'est-à-dire que le bio, c'est super important, mais je pense que le bio va continuer à se réinventer. C'est-à-dire que l'offre bio ne peut pas être multipliée par 5 et garder toutes les caractéristiques de ce qu'en ont fait les pionniers. Et pour moi, il est très important qu'il y ait des pionniers. Derrière le bio, il y a une question aussi de local, il y a une question d'équité. Et je pense que certaines de nos marques et d'autres marques engagées devront construire aussi ces autres formes de relations avec les producteurs qui engagent des communautés de consommateurs qui sont plus sensibles à ces questions-là. Donc ce serait possible, mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on adosse en France les modèles alimentaires à des modèles agricoles qui régénèrent les ressources qu'elles utilisent. C'est fondamental pour le futur.
Merci Emmanuel Faber. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Danone. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Demain, vous retrouverez Emmanuel Dutheil à Paris pour l'interview Éco.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau depuis Nairobi. Et dans un instant, on va jeter ensemble un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1. Et voici ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Grand débat, un mois à tuer, titre le journal L'Opinion, qui rappelle que c'est demain, effectivement, la fin officielle du grand débat national dans lequel le président s'est fortement impliqué. Mais la période la plus compliquée pour lui s'ouvre désormais, estime L'Opinion. Le débat est clos, or la réponse du président n'interviendra pas avant le 15 avril, c'est-à-dire un mois plus tard, d'où ce titre, un mois à tuer. Même tonalité dans le journal La Croix, où Guillaume Goubert estime que pour l'heure, les choses demeurent plus ou moins à l'état. État gazeux. Il est bien difficile, écrit-il, d'anticiper ce qui ressortira de ce grand débat national, mais quoi qu'il arrive, la revitalisation du débat démocratique restera comme un acquis de cette période mouvementée. Il faudra juste trouver les moyens de la pérenniser. Grand débat, le bilan, également à la une des Échos, impôts, démocratie, environnement, les idées qui émergent et les points qui bloquent. Tandis que Libération illustre sa une avec une photo d'Emmanuel Macron, micro à la main, avec ce titre, du grand débat au grand embarras. Imaginez, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, le dispositif lancé par l'exécutif cherche sa traduction concrète. Et puis le coup de cœur du jour revient à l'édito de Florence Chédotal dans le journal La Montagne, intitulé « Après nous le déluge ?» Et cette fois, on parle d'environnement. À la veille de la grande mobilisation des jeunes, quelques grincheux seraient bien tentés de les renvoyer réviser leurs cours de maths plutôt que de se permettre de donner des leçons aux grands. Passe ton bac d'abord et après tu pourras sauver la planète, les abeilles, les petits oiseaux. Enfin, s'il en reste. Dans une tragique concordance grandeur nature, écrit Florence Chédotal, des boulettes de fioul lourd s'acheminent doucement vers nos côtes, mais on va bien se trouver encore et toujours quelques bonnes excuses pour se dire, bras croisés, qu'on n'y peut pas grand-chose. On va même peut-être s'y habituer, surtout si on détourne le regard de cet insistant bruit de fond qui monte. Tant que le pire n'est pas arrivé, on se dit sans doute qu'il n'est jamais sûr. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et on va repartir tout de suite du côté de Londres, rejoindre Cyril de la Morinerie pour ce match de Ligue Europa entre Arsenal et Rennes. Match bien, bien compliqué pour les Bretons.
Oui, il reste 20 minutes, mais l'espoir est encore permis pour cette équipe rennaise qui est menée 2-0. et qui était dans un temps fort depuis 10-15 minutes, qui a trouvé d'ailleurs le poteau à la 47e, on vous le disait tout à l'heure, de Sarr. Mais une nouvelle fois, le poteau pour Ben Sebaïni qui, malheureusement pour lui, était de toute façon hors-jeu. Mais des Rennais qui avaient monopolisé le ballon et des joueurs d'Arsenal là, qui étaient vraiment acculés dans leur camp. Il y avait un peu de fébrilité. On voyait d'ailleurs l'entraîneur de cette équipe d'Arsenal, Unai Emery, l'ancien parisien, eh bien, grimacer. On se disait que c'était possible, mais c'est vrai qu'il y a eu deux changements là à l'instant du côté d'Arsenal pour essayer de casser le rythme avec Mkhitaryan et Iwobi qui sont entrés à la place d'Ozil et du français Lacazette. On va voir, il reste une vingtaine de minutes. Encore une fois, les Rennais sont virtuellement éliminés, mais s'ils marquaient un but, alors là, ils pourraient eh bien, espérer se qualifier. 2-0, encore 19 minutes de jeu à jouer à Londres.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct de Londres. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances. Je crois que c'est très bientôt.
Absolument, dans 2 heures.
Formidable.
D'ici là, je vous retrouve à 23h quand
oui,
même et à
merci.
Minuit.
À tout à l'heure.